Je vais, si vous le voulez bien, je vais introduire ce moment d'étude par la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que elle ne nous laisse jamais indifférents. Merci parce que à travers elle, tu viens nous chercher là où nous sommes et tu nous parles. Tu nous parles de qui tu es. Tu nous parles de qui nous sommes, Seigneur, et tu nous invites à aller plus loin, tu nous invites à te rejoindre, Seigneur. Et je te prie ce matin pour que tu bénisses ce que nous allons lire, ce que nous allons partager, ce que nous allons retenir et comprendre, Seigneur, pour que tu veuilles t'en servir pour faire avancer ton royaume dans notre Église, que tu fasses avancer ton royaume dans nos vies, Seigneur, et qu'en toute chose, ce soit toi qui sois glorifié. Je t'ai prié dans le nom de Christ. Donc vous savez que nous sommes dans les petits prophètes. Donc moi j'ai pas encore eu l'occasion de prêcher sur un de ces petits prophètes et j'ai choisi un de ces prophètes qui me tient plus particulièrement à cœur. Donc c'est le dernier, c'est Malachie. Alors je le prononce Malachie, hein. Et j'aime bien ce prophète parce que quand je le lis, il m'interpelle et il me choque aussi. Et je me rappelle qu'il y a quelques années, j'avais fait une présidence en partant de ce que disait Malachie et j'ai eu le sentiment que ce que j'en avais partagé était peut-être culpabilisant. J'avais le sentiment que j'avais peut-être pas apporté son message de la bonne façon, mais je l'avais apporté parce qu'il m'avait marqué, qu'il m'avait touché. Et donc c'est pour ça que ce matin je suis content de pouvoir revenir dessus et montrer que plus que la culpabilisation, Malachie nous invite d'abord à réfléchir sur notre alliance avec Dieu, à réfléchir sur notre engagement avec lui. Donc Malachie, c'est le dernier des prophètes avant Jean-Baptiste. Donc c'est un prophète qui est contemporain de Néhémie et d'Esdras. Donc c'est un prophète du retour de l'exil, et il est confronté au même problème donc que Néhémie et Esdras, hein, donc les problèmes de fidélité du peuple, la fidélité des prêtres. Et ce qu'on va lire, eh bien, vous allez voir, contient une charge violente contre l'hypocrisie des prêtres, contre l'absence de consécration du peuple dans sa relation à Dieu. Alors, je vais faire cette étude en deux fois. Donc, pour ce matin, on va se concentrer sur les deux premiers chapitres. Et je vais les lire. Je les lis dans la traduction du Semeur. Donc, proclamation, parole de l'Éternel, adressée à Israël par l'intermédiaire de Malachie. Moi, je vous ai aimé, déclare l'Éternel. Et vous me demandez, en quoi donc nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob, demande l'Éternel. Or, j'ai aimé Jacob et j'ai écarté Ésaü. J'ai fait de ces montagnes un pays désolé, j'ai livré son patrimoine aux chacals du désert. Édom peut bien dire, nous avons été démolis, mais nous rebâtirons ce qui n'est plus que ruine. Mais le Seigneur des armées célestes déclare, eux ils rebâtiront, moi je démolirai. On appellera leur pays le territoire de la méchanceté, le peuple contre qui toujours l'Éternel sera en colère. Et vous le verrez de vos yeux et vous direz, l'Éternel est très grand, même au-delà du territoire d'Israël. Le Seigneur des armées célestes s'adresse à vous, les prêtres. Un fils honore un père, un serviteur son maître. Si je suis votre père, où donc sont les honneurs qui me sont dus? Si je suis votre maître, pourquoi ne me révérez-vous donc pas? Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous méprisé? Vous apportez sur mon autel des aliments impurs, puis vous demandez, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel n'a guère d'importance. Quand pour le sacrifice, vous venez présenter un animal aveugle, n'y a-t-il rien de mal? Et quand vous présentez une bête éclopée ou un agneau malade, n'y a-t-il rien de mal? Offrez-le donc à votre gouverneur. Sera-t-il content de vous? Ou vous fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes? Ensuite, après avoir agi ainsi, vous venez supplier Dieu d'avoir pitié de vous. Vous fera-t-il bon accueil? C'est là ce que demande le Seigneur des armées célestes. Qui enfin parmi vous se décidera à fermer les portes de mon temple pour que vous n'allumiez plus inutilement le feu sur mon autel? Je n'ai aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je n'accepte pas l'offrande de vos mains. Car du soleil levant jusqu'au soleil couchant, ma renommée sera très grande au milieu des nations. Et partout, en tout lieu, de l'encens me sera offert et des offrandes pures. Car parmi les nations, ma renommée sera très grande, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Mais vous, vous m'outragez lorsque vous dites « La table du Seigneur est méprisable, et ce qu'elle nous rapporte en aliments est vraiment dérisoire. Quel fardeau, dites-vous, et vous me dédaignez, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Vous apportez ici des bêtes dérobées, boiteuses ou malades. Ce sont là vos offrandes. Croyez-vous que je vais les accepter de vous ? Demande l'Éternel. Maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau un beau mouton, un mâle, et le promet par vœu, puis qui offre au Seigneur une bête tarée. Car je suis un grand roi, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et les nations me craignent. Maintenant, c'est à vous, prêtre, que j'adresse cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de m'honorer, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, alors j'enverrai la malédiction contre vous, et vos bénédictions, j'en ferai des malédictions. Oui, j'en fais des malédictions, car aucun parmi vous ne prend à cœur de m'honorer. Je vais détruire votre postérité et vous jeter à la figure les excréments des bêtes que vous m'offrez en sacrifice lors de vos fêtes. Et puis, on vous emportera au dehors avec eux. Et vous reconnaîtrez que je vous ai donné cet avertissement afin que mon alliance avec Élie subsiste, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. J'ai conclu mon alliance avec lui pour lui accorder la vie et le bien-être. Je les lui ai donnés pour qu'il me révère. Et il m'a révéré. Il tremblait devant moi. Sa bouche dispensait un enseignement vrai, et l'on ne trouvait sur ses lèvres aucune fausseté. Il vivait avec moi, dans la paix, avec droiture. Il a détourné de leur faute un grand nombre de gens, car le prêtre doit s'attacher à enseigner la connaissance. C'est vers lui que l'on vient pour recevoir l'enseignement. Il est le messager du Seigneur des armées célestes. Mais vous, vous vous êtes égaré du bon chemin. Par votre enseignement, vous avez fait tomber beaucoup de gens dans le péché. Oui, vous avez rompu l'alliance avec Élie, déclare le Seigneur des armées célestes. Alors, de mon côté, je vous ai livré au mépris et au dédain de tout le peuple, puisque vous, vous ne suivez pas les voies que j'ai prescrites et que vous avez montré de la partialité quand vous donnez vos instructions. Ne sommes-nous pas tous enfants d'un Père unique? N'avons-nous pas été créés par un seul Dieu? Comment donc pouvons-nous agir avec traîtrise, chacun envers son compatriote, et profaner ainsi l'alliance conclue avec nos pères? Le peuple de Juda a été infidèle, et on a perpétré une abomination en Israël et à Jérusalem. Juda a profané le sanctuaire de l'Éternel, le lieu qu'il affectionne, en épousant des femmes adorant des dieux étrangers. Que l'Éternel retranche à ceux qui agissent ainsi, enfants et descendants, et tout membre des familles de Jacob qui serait susceptible de présenter l'offrande à l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Voici une autre faute que vous avez commise. Vous inondez de larmes l'autel de l'Éternel, vous le couvrez de pleurs et de gémissements, parce que l'Éternel ne fait plus aucun cas de toutes vos offrandes et qu'il n'accepte plus de recevoir de vous ce que vous présentez. Vous demandez, pourquoi en est-il ainsi? Parce que l'Éternel a été le témoin entre chacun de vous et la femme que vous avez épousée lorsque vous étiez jeune et que vous avez trahi. Elle était ta compagne et tu avais conclu une alliance avec elle. Un homme en qui subsiste un reste de bon sens ne ferait pas cela. Mais vous me répliquez, alors qu'a fait cet homme-là, Abraham, dont nous avons l'exemple? Eh bien, il cherchait une descendance qui lui vienne de Dieu. Restez donc dans votre bon sens et ne trahissez pas la femme de votre jeunesse. Car renvoyer sa femme par haine, déclare l'Éternel, Dieu d'Israël, c'est comme maculer de sang son propre vêtement en commettant un acte de violence, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Restez donc dans votre bon sens et n'agissez pas en traître. Donc vous voyez que c'est un texte qui est dur. Les mots qui reviennent, hein, donc il y a la traîtrise, il y a le rejet, le mépris, beaucoup de mots qui traduisent l'attitude des prêtres, l'attitude du peuple. Pourtant, ce passage commence par une déclaration d'amour. Le premier verset nous dit « Moi, je vous ai aimé ». Dans ce contexte, on pourrait même plutôt dire « Je vous ai choisi ». J'ai choisi Jacob et j'ai rejeté Ésaü. L'Éternel choisit son peuple. Il nous choisit, nous. Nous avons été choisis par lui. Et Paul, dans Romains, va reprendre ce passage et il va dire « Rebecca eut des jumeaux nés d'un seul et même père de notre ancêtre Isaac. Or Dieu a un plan qui s'accomplit selon son libre choix et qui dépend non des actions des hommes, mais uniquement de la volonté de celui qui appelle. Et pour que ce plan demeure, c'est avant même la naissance de ses enfants et par conséquent avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal que Dieu a dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au cadet. Et ceci s'accorde avec cet autre texte de l'Écriture, j'ai aimé Jacob et pas Ésaü. Mais alors que dire ? Dieu serait-il injuste ? Loin de là, car il a dit à Moïse, « Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. » Et depuis 5000 ans, Dieu protège Israël, le peuple qu'il s'est choisi. Depuis 5000 ans, ce peuple existe et perdure à travers toutes les épreuves qu'il a subies, et les peuples qui l'entouraient, eux, ont disparu. Et ici, le texte nous parle donc d'Édom, le peuple descendant d'Ésaü, rejeté par l'Éternel, dont tous les efforts ont été vains et qui finalement a disparu. Et ce texte nous montre que d'abord, cette alliance dont parle Malachi tout au long de ce texte, que l'alliance repose d'abord sur le choix de Dieu. Et c'est lui qui fait grâce à qui il veut, qui donne la foi à qui il veut, qui donne la vie. Et les raisons de ce choix nous dépassent. Le texte de Romains nous dit que avant même leur naissance, Dieu avait choisi avant que l'un ou l'autre ait fait ni bien ni mal. Les raisons de ce choix nous dépassent et dépassent probablement notre compréhension de ce que c'est que la liberté, de notre relation à Dieu. Et on peut voir cette élection comme un fardeau peut-être, ou bien au contraire on peut la voir comme une grâce. On peut la recevoir avec reconnaissance, avec humilité. En comprenant que notre salut ne repose pas sur nos mérites, mais repose sur la toute-puissance et la toute-connaissance de Dieu. Et cette compréhension de l'élection, eh bien, nous pousse d'abord à louer et à remercier Dieu parce qu'il est venu vers nous et qu'il nous a choisis du milieu des hommes. Le texte donc continue avec cette charge contre les prêtres. Et Dieu dit au prêtre, eh bien, je suis votre père, je suis votre maître, et où est l'honneur? Où est l'honneur qui m'est dû? Et Dieu, dans ce passage, rejette le culte rendu par les prêtres, rendu par Israël. Et c'est vrai que nous sommes habitués à un Dieu qui accueille même les plus pécheurs. Les pires des hommes peuvent s'approcher de Dieu. Quand on a fait notre étude sur la prière avec le livre de Yancey, une des choses que j'ai retenues, c'est que il n'y a pas de prière inappropriée. Quand on se proche de Dieu avec un cœur sincère, si ce monde est à côté, ou si on ne demande pas un cœur vrai, que cela est que fait les portes. Fermez les portes pour que vous arrêtiez de m'apporter des offrandes dont on ne veut pas. Je n'ai aucun plaisir en vous, dit l'Éternel. Vous savez, c'est violent comme texte. Mais ce que ce texte nous montre, c'est d'abord que les prêtres avaient une image corrompue de Dieu. Je lis souvent de la fantaisie ou des livres de Joseph, et parmi ces livres, il y en a quelques-uns qui présentent les dieux. Alors, il y a un livre qui s'appelle Small Gods, donc petit dieu, et qui présente les dieux en fait comme étant dépendants de leurs orateurs en fait, et leur puissance dépend du nombre de personnes qui les adorent. C'est une vision de ce que peut être la divinité, et j'ai l'impression que c'est un peu cette vision-là que les prêtres avaient. Ils ont l'impression de s'adresser à un petit dieu qui est à leur service, un petit dieu avec lequel on peut parler, adoration, marchant sur la valeur. Donc, va rappeler que Dieu n'est pas simplement le Dieu d'Israël, le Dieu de ceux qui le connaissent par son nom, mais que Dieu est le Dieu des nations. Bien souvent, c'est donc l'Éternel, le Seigneur des armées célestes de l'univers, le Dieu qui parle à tous les hommes, qui n'est pas dépendant d'eux. Un Dieu qui manifeste sa gloire sur le monde entier. Et Israël, son peuple qui doit manifester justement cette gloire, et qui doit la manifester par sa consécration, par la valeur qu'il donne à la présence de Dieu. Et Dieu nous dit qu'il transforme la bénédiction des prêtres en malédiction. Il nous rappelle que l'alliance a pour but d'accorder la vie. J'ai conclu mon alliance avec Lévi pour lui accorder la vie et le bien-être. Et Lévi est entré dans cette alliance. Il a vécu une vie justement de droiture et de respect pour Dieu. Mais les prêtres de l'époque de Malachie, eux, ont corrompu l'enseignement, ont égaré le peuple et l'ont conduit à pécher. Le culte rendu à Dieu dans l'ancienne alliance a disparu. Les sacrifices n'ont plus de sens depuis celui de Christ. Mais la consécration et l'amour de son peuple, eux, sont toujours précieux pour Dieu. Et la mission d'apporter le message de Dieu, d'apporter son enseignement, eh bien, cette mission a été étendue à tout le peuple. C'est ce que nous dit Pierre quand il nous dit que nous sommes une nation de prêtres. Le prêtre doit s'attacher à enseigner la connaissance. C'est vers lui que l'on vient pour recevoir l'enseignement. Il est le messager du Seigneur. Il doit conduire ceux qui cherchent Dieu, conduire pour qu'ils puissent trouver la vie, qu'ils puissent entrer dans cette alliance que Dieu propose à chaque homme. Et cette responsabilité, eh bien, elle nous appartient à chacun d'entre nous. Alors, bien sûr, nous n'avons pas les mêmes ministères, mais nous sommes tous témoins de qui est Dieu et de sa justice et de son amour. Donc voilà pour les prêtres. Et Malachi donc va ensuite s'attaquer à un problème qui touche davantage à la vie privée, à la vie individuelle, au choix que chaque homme et chaque femme bien fait dans sa vie. Et il va parler du mariage. Et utiliser le mariage comme une image de la, comme une image de l'alliance. En fait, il va définir le mariage comme étant une alliance dans laquelle Dieu a sa part. Et dans l'ancienne alliance, c'est vrai que c'était les liens du sang qui étaient la principale façon d'entrer dans le peuple d'Israël, hein. C'était simplement par descendance, de père en fils, de mère en fille, on devenait membre du peuple de Dieu. Aussi, les mariages à l'extérieur du peuple, à l'extérieur de l'adoration de Dieu, couraient le risque de faire entrer l'idolâtrie à l'intérieur du peuple. Et Malachie nous dit que cette façon de se marier, était une trahison à l'alliance qui fondait le peuple. Et ici, cette trahison, elle est présentée comme une trahison envers les compatriotes, aussi une trahison envers les pères, envers les ascendants, et comme une malédiction pour les descendants, une malédiction sur les enfants et la descendance. Et là, on voit le mariage comme le fait de faire partie d'un tissu. Un tissu qui tisse des liens avec les membres du peuple, qui tisse des liens avec le passé, avec tous ceux qui sont venus avant, et qui tisse des liens avec l'avenir, avec les enfants. Et le fait de faire entrer un étranger dans ce tissu, c'était comme de tisser avec un fil pourri qui risquait de fragiliser toute la toile. Alors aujourd'hui, l'entrée dans l'Église, hein, ne se fait plus ni par mariage, ni par héritage. Hein. Chacun porte la responsabilité du choix qu'il va faire. Et ce matin, on a prié pour nos enfants. Et c'est ce qu'on peut faire pour eux, partager ce que le Seigneur nous a donné et le choix de devenir un jour membre du peuple, leur appartient. Et donc, au moment où on choisit son conjoint, on ne le fait pas rentrer dans l'alliance, même si évidemment ce choix d'un conjoint va avoir des conséquences pour les enfants qui naîtront de cette union, et aussi pour les frères et sœurs dans l'Église. Donc là, il y a une différence par rapport à l'alliance qui était conclue avec Israël. Et pourtant, ce choix du conjoint, c'est, je crois, le premier marqueur de la place que nous donnons à Dieu dans notre vie. Paul, dans 1 Corinthiens, nous exhorte à ne pas nous allier avec ceux qui ne partagent pas la même foi. Et une cérémonie religieuse peut donner un vernis à une union, mais la vraie question, c'est évidemment d'abord de savoir si j'accepte de rentrer dans le plan de Dieu, et quand je choisis celui avec qui je vais unir ma vie, la question, c'est est-ce que je suis prêt à donner à Dieu ce que j'ai de meilleur, à attendre la personne qui me permettra de construire une famille avec les matériaux de Dieu plutôt qu'avec les miens. Alors évidemment, je porte aucun jugement sur ceux qui n'ont pas suivi ce chemin dans leur vie, et je suis convaincu que Dieu bénit ceux qui le cherchent, et quelles que soient les erreurs qu'on a pu commettre dans le passé, Dieu aime et redresse. Et c'est la même chose avec le divorce, donc qui est ce qui suit donc ce passage sur le choix du conjoint, le choix du mariage. Donc la même chose avec le divorce. Hein. Quelques-uns parmi nous ont traversé cette épreuve-là, et je veux rien mettre sur leurs épaules. Mais ici, donc, Malachi nous rappelle la détestation de Dieu pour la répudiation. Parce que, évidemment, à cette époque-là, les rapports entre les hommes et les femmes étaient bien plus asymétriques que ceux qui sont aujourd'hui. Et bien sûr, il y a une dimension sociale dans ce rejet de la répudiation où une femme était simplement rejetée par l'arbitraire de son mari. Mais avant cette question de justice, eh bien, Malachi nous rappelle que le divorce, c'est d'abord une rupture de l'alliance. Et comme l'immoralité, c'est un péché contre son propre corps. Le texte nous dit, c'est comme maculer de sang son propre vêtement en commettant un acte de violence. Alors c'est vrai que notre société, elle nous pousse à rechercher notre épanouissement personnel. Et le divorce est maintenant plus courant en fait que les mariages qui durent. Mais ces quelques versets nous rappellent simplement que Dieu ne prend pas les alliances à la légère. Si parfois nous sommes tentés de renoncer parce que on le sait bien, le mariage c'est parfois difficile. Eh bien, ce texte nous rappelle que notre union elle est tissée avec Dieu, et que c'est Dieu qui est témoin, qui est le premier témoin de cette alliance. Et si c'est lui qui est le témoin, eh bien, c'est lui aussi qui l'a béni. Je vais juste conclure maintenant en rappelant que nous avons été choisis par Dieu, et nous savons que nous avons été choisis parce qu'il nous a donné cette foi qui sauve. Et la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes rentrés, eh bien, elle est un chemin qui demande des sacrifices et de l'engagement. Et je repense à ce texte, cette parole de Jésus dans le sermon sur la montagne où il nous parle du trésor. Il nous encourage à amasser un trésor dans le ciel, parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors la loi et les sacrifices sont passés, de même que l'héritage du statut d'enfant de Dieu. Mais la place et la valeur que nous donnons à l'alliance que nous avons passée avec Dieu, eh bien, cette place et cette valeur, elles sont toujours d'actualité. Et le lien entre notre relation à Dieu en tant qu'Église et notre vie de famille, cette image qu'il y a entre le lien de Christ et l'Église et du mariage, eh bien, ça aussi, c'est toujours présent. Et ce texte nous rappelle que notre Dieu n'est pas un petit Dieu, et que dans ma relation à lui, je dois me rappeler qu'il est à la fois mon Père et mon Maître. Et ce texte m'encourage à rentrer dans cette alliance, à y rentrer de tout mon être, en y mettant ce que j'ai de plus précieux et de plus cher, à y entrer sans rien laisser de côté, et en me rappelant que s'il y a des malédictions ou des souffrances à minimiser la place de Dieu dans ma vie, eh bien, il y a aussi une bénédiction immense à lui donner cette place qu'il veut occuper. Je vous remercie.